civisme et droit du citoyen pour connaître ses droits, maîtriser ses devoirs et ses obligations.
Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent ?
Civisme et droit du citoyen, une émission pour un développement endogène du citoyen et de la société. Civisme et droit du citoyen, une émission de la web radio Awevi présentée par Spirou Maoulé. Soyez au rendez-vous tous les mardis à 17h, rediffusion tous les dimanches à 14h. Awevi Info, l'information comme si vous y étiez.
Bien chers auditeurs de Awevi Info, nous voici à l'heure de notre émission habituelle « Civisme et droits du citoyen ». Civisme et droits du citoyen, 50 minutes ensemble pour parler de la chose juridique, pour parler de la citoyenneté, pour parler du civisme. Civisme et droits du citoyen, c'est ensemble tous les mardis et tous les dimanches. Bien de choses à vous. De sept lettres qui crée beaucoup de mots dans la société, mettant à mal la citoyenneté, le civisme et le droit. Je veux parler simplement du mot conflit, qui a des relents très désagréables, qui a des origines même bibliques, mais qui, malgré sa simplicité orthographique, crée beaucoup de problèmes dans la vie de l'homme. Nous lisons dans Genèse 4 l'histoire de deux frères de même père et de même mère, Caïn et Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voilà, selon la Bible, le premier conflit entre les hommes. La Bible raconte un récit d'une autre dimension qui marque un autre exemple de conflit, celui de la tour de Babel. Les citoyens de Babylone commencèrent donc à bâtir la tour de Babel. Mais malheureusement pour ces derniers, Dieu finit par arrêter la construction et décida d'un châtiment à la hauteur de leurs péchés. Dieu sèmera donc la confusion dans les langues des fils d'Adam et Ève et les dispersera sur l'entièreté du globe. Le mot « conflit » à lui seul peut avoir une trentaine de synonymes, dont on retient essentiellement « affrontement », « antagonisme », « collision », « débat », « désaccord », « différend », « dissension », « divergence », Divorce, litige, malentendu, opposition, querelle, tiraillement, zizanie, etc., etc. La multiplicité des synonymes est à l'image de la diversité des causes des conflits et témoigne de la pluralité des conflits dans le monde. À l'origine d'un conflit, on trouve toujours des intérêts divergents, des sentiments heurtés ou des désirs différents. Un auteur dira qu'en fait, le conflit pose la question de l'autre qui a parfois la mauvaise idée de ne pas vouloir ce que l'on veut. Je répète parce que ça semble être assez simple mais difficile à comprendre. Le conflit pose la question de l'autre qui a parfois la mauvaise idée de ne pas vouloir ce que l'on veut. Nous sommes tous amenés à vivre des conflits. Et quand nous analysons les conséquences des violences, assurément, nous avons tous intérêt à les prévenir ou à les combattre. Si Abel en est mort, chaque année, il y a une multitude de personnes qui en décèdent. Que les conflits soient entre États, entre ethnies, entre clans, entre familles ou interpersonnels. Le conflit repose indubitablement sur la divergence d'intérêts. Ce que je veux, ce n'est pas ce que tu veux. Ou tout simplement, ce n'est pas exactement ce que tu veux. Et le conflit naît. Et le conflit peut générer beaucoup de violence. Et le conflit peut terminer par la mort de quelqu'un. Et plus grave encore, ça peut engendrer des querelles à l'infini entre deux familles, à tel point qu'à un moment donné, on ne se rend même pas compte de ce qui est à l'origine du conflit, mais on continue toujours pas à être en désaccord. Beaucoup d'enfants héritent des conflits des parents sans savoir pourquoi il y a ce conflit. À fouiller, on se rendrait compte même que c'était simplement un simple malentendu que les gens à un moment donné n'ont pas su gérer. Les parents, les enfants en héritent, ils ne réfléchissent pas beaucoup là-dessus et ils entretiennent ça jusqu'à transmettre à leur propre génération. Les conflits, aujourd'hui, sont le vrai problème dans nos pays africains. Les conflits empêchent le développement de nos pays africains. Qu'ils soient des conflits armés, qu'ils soient des conflits ouverts, qu'ils soient des conflits latents, les conflits demeurent toujours un véritable poison pour le développement de nos pays. À titre d'exemple, parallèlement à la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, qui a accumulé des milliers de morts depuis le 7 octobre, et à l'invasion russe de l'Ukraine qui a fait 2 ans en février 2024, donc bientôt 3 ans, si ça ne se termine pas, Des conflits armés de grande ampleur se déroulent actuellement dans de nombreux pays africains, entraînant des difficultés de survie pour les populations. Que nous soyons au Burkina Faso, en Somalie, au Soudan, au Yémen, en Birmanie, au Mali, au Niger, etc., les guerres sont des conflits ouverts, les attentats sont des conflits ouverts et les autres formes larvées de guerre ne permettent pas d'avoir la paix dans le monde. Pourquoi les conflits et comment les arrêter? Nous allons, dans notre émission de ce jour, relever quelques différents conflits qui existent et proposer des remèdes pour les prévenir dans la mesure du possible, car, comme le dirait quelqu'un, prévenir vaut mieux toujours mieux, vaut mieux, pardon, que de guérir.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we're out together, dance cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven. And the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak. But it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now mama, dance with me, I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek. When we out together, yeah, dance cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Commençons avec le conflit d'intérêts. Parmi les différents types de conflits, le conflit d'intérêts est la forme la plus classique. Le conflit d'intérêts a une définition claire. Deux personnes, au moins, ont un intérêt convoité mais divergent. Et elles ne trouvent pas de solution à la situation. L'exemple de l'héritage est parlant. Deux personnes au sein d'une même famille sont en conflit car l'une souhaite vendre un bien et l'autre ne le veut pas. Un avocat qui défend un client contre un autre, les deux sont en conflit. Deux commerçants qui se battent pour la même clientèle sont en conflit. Deux hommes qui veulent la même femme sont en conflit. Nous parlons du conflit d'intérêts. Cela ne suppose pas forcément que les gens vont se faire la guerre. Cela suppose simplement que les deux ne partagent pas les mêmes intérêts. Ou alors, les deux se battent pour le même intérêt. Et cette bataille-là peut prendre une forme policée, peut prendre une forme qui soit acceptée par tous. Ce que nous appelons chez les commerçants, par exemple, la concurrence, est un conflit d'intérêts, mais qui a trouvé des règles juridiques pour faciliter son existence. Et d'ailleurs, quand il y a concurrence, le consommateur est avantagé. Donc, le conflit d'intérêts en soi n'est pas une mauvaise chose. Le conflit d'intérêts n'est pas forcément chrysogène. Il existe et il signifie que les gens ne sont pas en accord, les gens ne sont pas en harmonie. Mais cela ne débouche pas forcément sur une bataille rangée, sur une guerre ouverte. Si la crise est bien installée et si des problèmes relationnels s'ajoutent par-dessus, il est alors difficile de trouver une issue et le conflit d'intérêts peut mal se terminer. C'est un type de conflit fréquent dans la vie de tous les jours car nous sommes souvent en désaccord les uns avec les autres. C'est une attitude qui est liée à la nature humaine. Dans le meilleur des cas, on va en justice pour régler cela. Mais entre les adeptes des pouvoirs occultes, on se remet parfois aux divinités, ou si on est primaire, on en vient au poing ou aux armes. Aujourd'hui, la notion de conflit d'intérêts a pris un sens plus particulier, sans enlever au premier sens son existence. Il s'agit concrètement d'une personne qui doit prendre une décision, mais durant cette prise de décision, cette personne possède des intérêts privés, mais également des pouvoirs de décision. Le conflit d'intérêts représente donc la confrontation ou la collision d'intérêts privés avec les pouvoirs de décision. Par exemple, un juge qui est saisi d'une affaire entre son beau-frère et un autre commerçant se trouvera dans ce que nous appelons un conflit d'intérêts. Est-ce qu'il serait assez libre, assez indépendant? Est-ce qu'il aura suffisamment les mains libres pour trancher contre son beau-frère ou son beau-père éventuellement? Le conflit d'intérêts fera qu'on aura du mal à lui permettre de siéger et de prendre une décision. Voilà la nouvelle forme que prend le conflit d'intérêts. Mais l'ancienne forme demeure toujours et malheureusement, elle va encore demeurer longtemps parce que tant que nous sommes des êtres humains, il y aura toujours divergence, il y aura toujours mésentente, il y aura toujours désaccord sur nos intérêts. Que ce soit dans le premier sens ou dans le second sens, la manière la plus sûre pour éviter ces conflits, pour éviter que ces conflits-là ne dégénèrent, la manière la plus sûre, demeure la loi ou les tests réglementaires clairs, précis et cohérents. Mais la vraie solution se trouve dans la retenue, se trouve dans la probité morale des parties. On peut toujours raisonnablement discuter et trouver une solution, car souvent, c'est le manque de communication qui aggrave la situation. Et c'est parfois la position de chacun qui ne fait que compliquer le problème. Mieux encore, c'est tout simplement l'égoïsme qui aggrave le problème. C'est l'égoïsme qui creuse le tombeau d'un conflit et rend ce conflit pratiquement sans solution. Il faut se rappeler que quand deux personnes sont assises face à face et qu'on a écrit au sol en face de l'un 6, l'autre lira probablement 9. Et donc, c'est le même chiffre qui est lu différemment selon notre position par rapport à l'écriture. Réfléchissons donc avant de rentrer en conflit pour des questions qui ne valent même pas la peine. À côté du conflit d'intérêts se trouve un conflit qui est beaucoup plus difficile à gérer, qui se greffe parfois sur le conflit ou souvent sur le conflit d'intérêts. C'est le conflit de pouvoir. Le conflit de pouvoir peut s'installer au sein de la sphère privée ou familiale ou de la sphère professionnelle, comme c'est souvent le cas dans les logiques hiérarchiques d'entreprise. Les structures pyramidales, avec un chef en tête qui est suivi par d'autres petits chefs, mais aussi les structures transversales ou horizontales, avec un chef au milieu qui est entouré de petits sous-chefs qui empêchent qu'on s'approche de lui, favorisent les conflits de pouvoir. Il est surtout dans la gestion d'un groupe qui peut être la famille, la société, le clan, le village ou carrément l'État. Quand nous sommes dans la sphère politique et à la gestion de l'État, les enjeux créent la monstruosité des moyens utilisés. Soit on se bat pour être le chef, soit on se bat pour être proche du chef ou pour être bien vu du chef. La trahison, la délation, le mensonge, les recours mystiques et leur cortège de sacrifices rituels sont les outils de prédilection. Dans ce type de conflit, le pouvoir est contesté. Quelqu'un se bat pour récupérer du pouvoir ou pour ne pas subir le pouvoir d'une personne ou d'une entité. Généralement, ces conflits se jouent entre des personnes qui sont plus ou moins avides de pouvoir. Ce sont des conflits qui peuvent dégrader le bien-être d'une entreprise ou la qualité d'une organisation, en allant parfois jusqu'à la mettre en danger. Ces conflits peuvent être le résultat d'une délimitation non précise des compétences, car en réalité, en se battant pour avoir un pouvoir, on perd parfois de vue la finalité du pouvoir qui est d'instaurer le vivre ensemble et on recherche le pouvoir pour soi et pour ses proches, que ce soit à la tête de la famille, de l'association, de la société ou de l'État. Le conflit de pouvoir est tel qu'en réalité, on ne cherche même plus à voir si par rapport à ma compétence, je ne serais pas mieux à un autre poste qui n'est pas le plus important de la structure. Et que, à ma petite place, je peux tout autant contribuer à ce que la structure avance de la meilleure façon que possible. On veut le pouvoir. On pense être la personne idoine, la personne incontournable, la seule personne qui doit avoir ce pouvoir et l'exercer. Résultat, peut-être qu'on n'est pas si efficace, mais on exclut la vraie personne qui peut être utile et du coup, toute l'organisation tombe. Et parfois même, c'est parce que l'organisation elle-même n'a pas trouvé les bonnes personnes qui sont à côté de la structure et qu'on peut aller chercher, mais qu'on ne veut pas juste parce qu'on veut conserver le pouvoir. Combien de fois les employeurs n'ont pas reçu la visite d'un employé qui est allé faire ragot? Combien de fois les employés ne se sont pas dit des choses derrière le dos de l'autre? Combien de fois les employés n'ont pas essayé d'une manière ou d'une autre de rabaisser un autre employé pour se faire bien voir de l'employeur? Combien de pays ne sont pas en crise tout juste parce que tout le monde veut être le chef et personne ne veut être un simple citoyen? Combien de fois, combien de pays, combien de familles, combien de sociétés ne se détruisent que parce que quelqu'un veut être le chef, veut avoir le pouvoir, le tout en même temps et pour longtemps? Rappelons-nous que Montesquieu disait déjà en son temps que tout homme qui a du pouvoir est tenté d'en abuser et que pour que le pouvoir ne puisse pas entraîner la dérive, il faut prévoir que le pouvoir arrête le pouvoir. Et donc, pour trouver une solution au conflit de pouvoir, il faut d'abord et forcément installer des contre-pouvoirs de manière à ce que chacun puisse être limité dans son ambition de pouvoir. La solution idoine est l'existence de règles de dévolution, l'existence de règles de gestion du pouvoir rendues obligatoires pour tous et gravé dans le temps et l'histoire du groupe. Dans tous les cas, responsabilité, altruisme, dignité, honneur et honnêteté doivent accompagner tous ceux qui aspirent, tous ceux qui veulent avoir à gérer un pouvoir. Car si vous n'êtes pas une bonne personne en vous, si vous n'avez pas le sens de la responsabilité, si vous n'avez pas le sens du devoir, si vous ne voulez pas aider et que vous ne voulez le pouvoir que pour votre propre ambition, vous êtes dangereux pour la société.
Ma
Un troisième conflit est le conflit identitaire. Le conflit d'identité fait référence au conflit intergroupe qui découle de sources subjectives telles que l'identité sociale et l'idéologie, où les individus se catégorisent dans différents groupes, font preuve de favoritisme au sein du groupe, mais surtout dénigrent les membres du groupe extérieur, conduisant à des attitudes et des comportements de rejet des autres groupes. Les groupes religieux, les groupes partisans, les groupes ethniques, les groupes sectaires, les groupes nationalistes, les groupes savants, les groupes professionnels et autres groupes d'illuminés foisonnent et se font leur apologie par renfort de communication internet et extranet. Il s'agit donc pour une catégorie de la population de se trouver des points communs et de se rassembler dans un groupe dans ces points, de ce point commun-là et d'exclure tous ceux qui ne sont pas du groupe. Nous ne sommes pas en train d'accuser le fait de vouloir vivre en communauté. Le regroupement en soi est une bonne chose. La création des personnes morales est une bonne chose. La création de sociétés de réflexion est une bonne chose. Ce qui est mauvais, ce que nous condamnons, c'est le fait que on rejette systématiquement tous ceux qui ne sont pas de ce groupe-là. C'est le fait qu'on ne donne aucune chance à ceux qui sont hors de ces groupes-là de pouvoir s'exprimer ou de pouvoir démontrer leur qualité à eux aussi. C'est le fait de penser que c'est seulement les gens de votre groupe qui sont les personnes les plus intéressantes, qui sont les personnes les plus importantes, qui sont les seules personnes qu'on doit pouvoir protéger ou gratifier au mépris des autres personnes. Ces groupes-là ne nous poseraient de problème s'il n'y avait pas ce côté obscur. Un groupe religieux qui prie et qui accepte que d'autres ne soient pas de la même religion n'est pas un groupe dangereux, n'est pas un mauvais groupe, mais un groupe qui systématiquement repousse tous ceux qui ne sont pas de leur confession religieuse, qui snob, qui discrimine, qui rejette tout simplement les autres, allant même parfois jusqu'à ordonner la destruction de ces gens-là. C'est ça qui est le danger que nous voulons dénoncer à travers les conflits identitaires. Les gens d'une même ethnie qui se regroupent et qui font la chasse à d'autres ethnies. Les gens d'un même village qui rejettent tous les autres des autres villages et qui ne veulent qu'on ne reconnaisse que leur village. Rappelons-nous de tristes mémoires de Hitler qui, à un moment donné, avait dit que seule la race aryenne était la vraie race et qu'il fallait tuer tous ceux qui n'étaient pas de cette race-là. Et ça a conduit à ce que nous avons tous en mémoire, la Grande Guerre mondiale. Toute forme d'identité, à consonance culturelle ou autre, présente une source fréquente d'intolérance qui prenne la forme de lutte, de combat ou de conflit. C'est un conflit d'actualité lié à l'idée de communauté, de groupe et de sous-groupe qui crée des rivalités et des conflits. Le phénomène de non-reconnaissance est souvent à la source du conflit identitaire. Les conflits territoriaux sont aussi une forme de conflit identitaire parce que il y a des nationaux d'un pays à qui on ne reconnaît pas le droit d'exister. Cela tient à l'idée d'avoir sa place, de ne pas la perdre et de la conserver. C'est un élément sensible et une source large d'éléments de conflit. Toutefois, dans la gestion des conflits, l'on se rend compte que ce sont des conflits qui peuvent se résorber et se résoudre, notamment grâce à l'intervention d'un tiers, le médiateur, qui par la communication et la sensibilisation permet de résoudre la crise. Très souvent sociale, la crise identitaire s'appuie sur le déséquilibre des avantages sociaux découlant des clivages. Il faut donc une meilleure répartition des avantages ou une diminution des avantages pour régler le conflit. Dans la plupart des situations de conflit identitaire, ethnique, clanique ou autre encore lié au groupe des hommes, on se rend compte que les conflits ne deviennent vraiment plus graves qu'à partir du moment où un groupe identitaire se sent maltraité, se sent rejeté. Il faut donc que dans chaque État, le médiateur, surtout le médiateur de la République, se donne l'obligation de pouvoir demander aux responsables du pays de rééquilibrer les avantages sociaux pour faciliter l'entente entre les différents villages, les différents clans, les différentes ethnies. Lorsque vous avez un village qui a deux pompes et qu'à côté il y a un village qui n'a pas du tout de pompe, il est clair que le village qui se sent défavorisé a toutes les potentialités d'être en conflit avec le village qui a beaucoup. Et donc, il faut arriver à harmoniser les avantages sociaux de manière à ce que chacun puisse s'accepter très facilement. La bonne foi et la sagesse sont des vertus qui vont permettre de résoudre le conflit qui est un conflit identitaire. La bonne foi qui permet de se dire que ce qui est pour l'autre village pourra être pour notre village aussi si nous nous mettons au travail. Seul le travail permet d'avoir des avantages que la nature ne nous donne pas. Il ne s'agit pas de vilipender ou de chercher forcément à détruire ce que l'autre a dans la recherche d'une solution à la crise identitaire.
Mas não me
autre type de conflit est le conflit de valeurs. Les conflits de valeurs sont définis comme l'ensemble des conflits qui portent sur des choses auxquelles les travailleurs octroient de la valeur. Conflit éthique, qualité empêchée, sentiment d'inutilité du travail, atteinte à l'image du métier, attachement à la morale sont entre autres les valeurs pour lesquelles les gens facilement, surtout en milieu professionnel, entrent en conflit. Les conflits de valeurs ou conflits cognitifs peuvent se retrouver au sein d'un groupe, d'une organisation ou d'une famille. Par exemple, entre deux conjoints, il y a de nombreuses situations où se pose la question des valeurs de l'un et de l'autre. Doit-on donner plus de poids aux valeurs familiales et d'appartenance en privilégiant les moments de famille et d'échange ou en privilégiant les valeurs professionnelles et d'engagement? En choisissant de terminer un travail le week-end plutôt que de passer du temps avec sa belle famille, si l'un des conjoints favorise les valeurs familiales et l'autre les valeurs professionnelles, pour le planning du week-end, il y a assurément un conflit de valeurs. L'homme qui veut aller voir ses amis au foot et la femme qui préfère qu'on aille à l'église, il y a assurément un conflit de valeurs. Est-ce que les deux peuvent avoir une identité de valeur? Oui, absolument. Et c'est ce qui est d'ailleurs souhaité. Mais dans la réalité, sur d'autres plans, il y aura probablement des conflits de valeur. Est-ce qu'il faut préférer, par exemple, la tradition de son père à la tradition de sa mère? Voilà encore des conflits de valeurs qui risquent d'envenimer la vie familiale. Il y a d'autres exemples encore que nous pouvons citer, mais reconnaissons que les conflits de valeurs sont des conflits qui sont assez répandus. La gestion des conflits de valeurs peut être complexe, car la rationalité a peu d'emprise en la matière. En général, la discussion n'apporte pas d'issue favorable car chacun justifie ses valeurs et s'éloigne des valeurs de l'autre. Entre choisir d'aller à l'église ou choisir d'aller faire du sport, entre suivre un film ou voir le journal ou un documentaire, le conflit est là. Il est vivace. Il sera accentué selon l'effort que chacun des membres du groupe pourrait mettre en œuvre pour que le conflit diminue ou disparaisse. Lorsque vous êtes dans un groupe où vous envisagez de faire une sortie et que d'autres disent qu'il vaut mieux rester sur place, il faut impérativement trouver une méthode pour que l'on puisse s'entendre. Évidemment, il ne s'agit pas de faire forcément la volonté de chacun, ou alors il ne s'agit pas de penser qu'on a gagné une victoire si c'est sa pensée qui est choisie, mais il s'agit tout simplement de se rendre un peu plus humble pour accorder des faveurs, pour donner possibilité à la vie en groupe, pour diminuer son égoïsme au profit du groupe, pour permettre au groupe d'exister et d'exister soi-même dans le groupe de façon assez paisible. Il faut donc que le conflit de valeurs puisse trouver une solution essentiellement dans l'humilité, mais également dans la discussion. La loi, dans certaines situations, demeure la voie la plus simple et la plus sûre. On écrit un règlement intérieur qui prenne soin d'élaguer tout ce qui peut mettre en avant des valeurs qui n'étaient pas au préalable requises dans le groupe. Il ne s'agit pas, on a un groupe par exemple, de jeux de Ludo, et que ce groupe-là avant jouait tous les dimanches sans aucun problème, et que dès que un chrétien, entre guillemets, un but de sa personne arrive, impose à tout le monde de pouvoir faire un changement de jour pour le jeu, parce que lui, il trouve que ce n'est pas tolérable de faire le jeu le dimanche. Il faudrait donc que dans un règlement intérieur, on puisse prévoir tous les mécanismes qui vont régenter la vie du groupe. Et donc, la loi est un bon moyen pour éviter les conflits de valeurs. Quand on met que dans une entreprise, on est laïque, ça permet tout simplement toutes les religions de cohabiter sans qu'aucune de ces religions ne puisse envenimer la vie des autres. Et c'est donc la loi, c'est donc le règlement qui facilite le règlement des conflits de valeurs. Aujourd'hui, au sein des entreprises, des chartes de valeurs sont fréquemment mises en place pour réunir les employés et les collaborateurs entre eux et éviter le conflit de valeurs de travail. C'est un travail sur la raison d'être de l'entreprise. Au sein de la famille, les thérapies de couple sont des débuts de solution. Dans tous les cas, la sagesse, la tempérance, la bonté doivent être mises à contribution pour éviter les conflits de valeurs en famille.
My heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No tell me, no, 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 oh, 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 oh. Baby, gon' give me your lo, 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 lo. You got me like whoa, 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 whoa. Shawty, gon' give me your lo, 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 lo. I start to the dollar.
if I tell you say I love you, no day for me young girl. Oh young girl, not tell me no 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 no.
Le dernier conflit dont nous parlerons aujourd'hui est le conflit affectif. Bien sûr, comme annoncé, il y a d'autres conflits encore. On n'a pas parlé du conflit interculturel, par exemple. Mais nous allons terminer avec le conflit affectif. De nombreuses émotions sont mises en jeu dans le conflit affectif. La jalousie, la haine, l'amour, la passion, le désir, la vanité, la cupidité, et que sais-je encore. C'est le domaine des sentiments humains et de la sensibilité humaine où il y a inévitablement des frictions. Certaines personnes sont davantage attirées par ce type de conflit et d'autres sont plus sensibles et n'arrivent pas à gérer un conflit quand il survient. En groupe, ces gens extériorisent ces sentiments, créant ainsi des conflits interpersonnels en engendrant des formes d'humiliation, d'animosité, d'irrespect difficilement tolérable, que ce soit dans la sphère personnelle ou dans la sphère professionnelle. Le conflit affectif, c'est simplement ce qui nous permet de dire que telle autre personne est sympathique et telle autre personne est antipathique. Tout simplement parce que peut-être l'ego de l'autre ne marche pas avec votre propre moi. Tout simplement parce que la vanité de l'autre ne vous est pas supportable et vous n'avez pas suffisamment d'humilité pour accepter de supporter. Tout simplement, vous-même, vous ne vous laissez pas comprendre ou entendre par les autres. Vous voulez vous imposer à tout le monde parce que peut-être vous êtes trop fier de vous, parce que vous êtes trop imbu de vous, parce que vous pensez être le plus intelligent, vous pensez être le plus beau, le plus riche, le plus fier. Et donc, vous créez un sentiment de malaise dans tout groupe où vous allez. Il y a de ces gens-là qui ne peuvent être dans aucun groupe, tout simplement parce qu'ils sont trop fiers d'eux-mêmes. Mais attention, il y a l'inverse aussi qui existe, où vous prenez une personne qui est trop bonne et qui se sent assez humble et qui ne peut pas supporter les caprices des autres. Vous avez de ces groupes où la délation est la règle. Quand vous n'arrivez pas à intégrer ces groupes-là, où le mauvais caractère est la règle et le bon caractère l'exception, ne vous brimez pas. Ne pensez pas être la mauvaise personne. Parce que même si vous aimez trop dire la vérité, vous aurez du mal à intégrer un groupe. Ce serait peut-être un conflit de valeurs, mais dans tous les cas, c'est un conflit affectif dans la mesure où votre sentiment ne vous permet pas de vous intégrer au groupe qui se présente à vous. Mais est-ce que c'est une raison pour vous éloigner des autres? Ne faudrait-il pas commencer plutôt une éducation des autres pour que notre société se porte mieux? N'oublions pas que dès que vous avez une valeur et que les autres n'ont pas suffisamment de hauteur d'esprit, ils préfèrent faire de la médisance. La jalousie l'emporte. L'envie est le moteur de leur vie. Et vous serez brimé, et vous serez écarté. C'est un conflit affectif avec lequel il faut savoir conjuguer toute sa volonté pour survivre, pour vivre et pour éduquer les autres. En réalité, il arriverait même que ces conflits-là, pour certains, soient simplement des problèmes de psychologie qu'il faut soigner à l'hôpital. Dans tous les cas, nous, à Civisme et Droits du Citoyen, nous vous disons que l'honnêteté, l'altruisme, la bonté, la serviabilité, la loyauté et autres vertus sont des atouts pour éviter tous les types de conflits. En attendant, allons méditer tous sur ces vertus-là jusqu'à notre prochaine émission. Que Dieu nous bénisse et nous garde jusque-là.